14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Je croyais être acquitté de ce procès pourri. Et je pourrais pas oublier si j'avais découpé un Bernard que j'aimais bien. Pour moi, c'était comme un frère, vous voyez. J'ai pas de secret.
Bonjour, la voix de Simone Weber. Simone Weber, morte à 93 ans dans sa maison de retraite à Cannes. Celle qu'on avait surnommée la Diabolique de Nancy. Y vivait depuis plusieurs années un des noms les plus célèbres de la chronique criminelle. Mais pas une tueuse en série. Elle avait été condamnée pour le meurtre d'un seul homme, son ancien amant, et acquittée pour le décès suspect de son deuxième mari. Autant d'accusations qu'elle a toujours contestées. Elle nous avait réservé dans l'heure du crime en 2021 son ultime interview. Elle répétait n'avoir jamais assassiné personne. Elle se présentait comme une bouc émissaire. Lors de l'enquête, les policiers et le juge d'instruction Gilbert Thiel ont appris à découvrir ce personnage tout aussi extravagant qu'inquiétant, une grand-mère pimpante et apprêtée, mais qui évoluait dans un univers peuplé de mensonges, de double vie, de dissimulation, d'escroquerie et d'entourloupe. Dans ce brouillard, il va falloir du temps pour discerner la femme qui a découpé un homme à la tronçonneuse et parvenir à la confondre. Qui étiez-vous, Madame Weber ? C'est la question que nous posons à celui qui la connaît le mieux, son juge, Gilbert Thiel.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur le parcours de Simone Weber, un nom devenu emblématique de la chronique judiciaire et qui apparaît à l'été 1985 au détour de la disparition inexpliquée d'un homme qu'elle connaissait très bien. C'était son amant. Lundi 1er juillet 1985, Patricia Etier est au commissariat de Nancy. Elle est venue signaler la disparition de son père, Bernard Etier, 54 ans, un employé de l'usine Solvay à Dombasle. La dernière fois qu'il a été vu, c'était à l'usine le samedi 22 juin, à 5h du matin. Il a quitté son poste de nuit pour rentrer chez lui, rue Sainte-Barbe à Maxville, où il vit seul après deux divorces. Mais depuis, plus rien. Une semaine plus tard, un appel à témoins est publié dans le journal L'Est Républicain avec une photo de Bernard Etier. Qui a vu cet homme ? Corpulence mince, 1m75, cheveux grisonnants, blouson beige, pantalon gris. Sa voiture, une Renault 9 de couleur bleue, est également recherchée. Les policiers établissent qu'après avoir quitté l'usine, Etier est passé de manière impromptue chez une amie qui habite Nancy. Il lui a demandé qu'elle l'héberge quelques heures car il ne pouvait pas rentrer chez lui. « T'as pas l'air de me croire, mais elle m'attend avec un fusil », a-t-il déclaré. Allusion à une ancienne maîtresse, une certaine Simone Weber, 54 ans. Il ne veut plus la voir, mais elle s'accroche, le suit partout, le surveille. Vers 10h, Bernard repart chez lui, mais Simone Weber est toujours là, immobile. « C'est sûr que je vais me faire engueuler », confie-t-il alors à des voisins. À 11h45, Bernard Etier et Simone Weber quittent en même temps la maison, chacun au volant de sa voiture. Les policiers s'intéressent à cette Simone Weber qui a deux appartements à Nancy, avenue de Strasbourg et rue de Kronstadt. Mais pas question d'inquiéter tout de suite cette femme. Dernière personne à avoir vu Bernard Etier vivant, on la place sous surveillance, des témoins sont entendus. Le chef du personnel de l'usine révèle avoir reçu le 2 juillet, lendemain du signalement de la disparition, un arrêt de travail de Bernard Etier. La lettre a été curieusement postée depuis Épinay-sur-Seine, bien loin de Nancy. La police interroge le médecin, il décrit un patient petit, trapu, tout le contraire d'Etier. Il s'agit en fait d'un gendre de Simone Weber. Elle m'a demandé de me faire passer pour Etier, qui avait besoin d'un certificat médical, va témoigner le gendre. Les découvertes continuent. Les voisins du dessous de Simone Weber au 158 avenue de Strasbourg, les époux Hague, racontent que le 22 juin au soir, il y avait un homme chez elle, la cinquantaine, mince, ils ne l'ont pas vu ressortir. Les Hague se souviennent que la lumière est restée allumée chez Simone toute la nuit. Vers 22h30, à la fin du film à la télé, ils ont entendu un bruit sourd, comme un corps qui tombe, puis un bruit d'aspirateur. Le lendemain, dimanche, elle leur a demandé comment fonctionnait un couteau électrique. Puis vers minuit, les Hague ont aperçu leur voisine en train de descendre un gros sac poubelle noir. Elle l'a mis dans le coffre de sa Renault 9. Lundi, elle a chargé une quinzaine de sacs dans le coffre de son autre voiture, la Renault 5 rouge. Les jours suivants, Simone Weber a nettoyé les escaliers avec une petite brosse et a étendu deux petits tapis dans la cour. Dimanche 15 septembre 1985, trois mois après la disparition de Bernard Etier, un pêcheur repère une valise qui flotte entre deux eaux dans un bras de la Marne à Poincy, en Seine-et-Marne. À l'intérieur, le tronc d'un homme emballé dans une bâche en plastique. La police feuillette le fichier des personnes disparues, les photos de la valise circulent. Patricia Etier reconnaît formellement ce bagage qui appartient à son père, il venait tout juste de l'acheter. Le parpaing qui a lesté la valise est analysé. Il est couvert d'éclats de peinture bleu ciel, couleur qu'on retrouve dans le jardin d'une petite maison que possède Simone Weber à Rosières aux Salines, en Meurthe-et-Moselle. Et trois semaines plus tard, Simone Weber, qui était jusqu'ici sous surveillance, va être arrêtée. Les enquêteurs et le juge Thiel vont alors avoir tout loisir de découvrir ce personnage. Avant cela, je voudrais qu'on revienne à cette enquête presque souterraine que mène la PJ de Nancy autour de la disparition de Bernard Etier. Bonjour Gilbert Thiel.
Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Vous êtes juge d'instruction à l'époque pour cette affaire Weber. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le monde judiciaire. On a du mal à les compter et à les énumérer.
Je cite quand même... Il y en a huit. Voilà, je vais vous aider.
Oui. Huit. On va citer simplement votre dernier livre. C'est celui-ci, c'est Tueur en série Made in France, publié aux éditions Robert Laffont. Et c'est une espèce... un des dictionnaires que vous avez écrit sur le crime, parce que alors là, il y a plusieurs cas qui sont évoqués et souvent des histoires qu'on ne connaît pas. Je tombe là à l'instant, page 501, sur Victor Prévost, le boucher de la chapelle. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire, mais je la lirai avec plaisir. Gilbert Thiel, revenons à Simone Weber. Tout de suite, elle intéresse évidemment la police. Vous ne l'avez pas encore vue, Simone Weber. Vous la suivez vaguement, vous voyez à peu près qu'elle est en train de se dessiner dans ce décor, mais on s'intéresse à elle parce qu'elle est la dernière à avoir vu vivant Bernard Etier, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Vous avez cité au début de votre intervention cette démarche de Patricia Etier qui va signaler à l'hôtel de police. C'est d'ailleurs pas la police judiciaire de Nancy que je saisirai, mais la sûreté urbaine de Nancy qui va être chargée de cette enquête. Alors, entre la date de la disparition, le samedi 22 juin 1985 de Bernard Etier, quand on le voit repartir avec sa voiture suivie par celle de Simone. Simone Weber, et le 1er juillet, date de la démarche, on est dans un flou, on ne sait pas, les institutions ne savent pas. Le 1er juillet est ouverte une procédure administrative qu'on appelait à l'époque recherche dans l'intérêt des familles, et qui s'appelle maintenant les procédures pour disparition inquiétante, et 9 jours après, c'est quand même assez rapide, une information judiciaire sera ouverte, c'est celle-là qui me sera confiée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, dès le 2 juillet, comme vous l'avez indiqué, ce faux certificat médical. La police va rapidement apprendre que le fameux Bernard Etier, qui se plaignait de maux de ventre à Épinay-sur-Seine, eh bien, n'était pas Bernard Etier. Ça ne correspondait ni à la description physique, ni à l'âge. Et puis, d'emblée, la famille de Bernard Etier, ses enfants ou ses sœurs disent qu'il craignait véritablement cette femme et qu'il avait dit à son entourage que s'il lui arrivait quelque chose, c'était dans cette direction-là qu'il fallait chercher. Donc, dans un premier temps, on va essayer de la suivre. Elle va faire des demi-tours de sécurité en voiture,
Elle se sent un petit peu épiée, c'est ça ?
Elle repère les flics. Elle les voit. Et donc, elle joue manifestement avec eux. Et puis, surtout, il y a une chose que vous apprêtiez certainement à dire, mais dès le 22 au soir, il y a un coup de fil qui arrive chez la maîtresse de Bernard Etier, la maîtresse de l'époque, Madame Nusse, qui reçoit un coup de téléphone d'un homme qui se fait passer pour un ami de Bernard Etier et qui va lui dire Bernard ne rentrera pas ce soir, votre week-end dans les Vosges où il avait une maison secondaire, une résidence secondaire, c'est à part à l'eau parce qu'il a des ennuis, il a une fuite de l'eau. Il y aura deux autres coups de fil. Ne m'interrompez pas sans arrêt, Jean-Alphonse.
Je vous interromps pas, mais c'est pour dire que...
Vous me lancez sur une affaire qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'ailleurs pour
vous ça
que
vous m'avez invité. Vous avez une heure pour vous exprimer, monsieur le juge. Ce que je veux dire par là, c'est que Madame Weber ne le lâche pas, Etier. ce que disent les proches. Elle est toujours là en permanence à ses basques.
Non seulement elle ne le lâche pas, et on verra que par la suite elle va faire un double des clés de son appartement pour s'y introduire en son absence, pour voler du courrier, voler des talons de chèque. Elle a fait faire un double des clés de la voiture de Bernard
Essier. C'est ça, ouais, la Renault 9.
Et elle va relever à 80 reprises à peu près dans les 6 premiers mois de l'année 1984 le nombre de kilomètres parcourus par Bernard Etier. Donc quand elle l'interrogeait, il disait « t'as été où ?» Elle savait qu'il lui mentait, mais surtout, ce qu'il est important de savoir, c'est que la liaison Bernard Etier-Simone Weber, qui a commencé fin 1981, s'est achevée dans les derniers jours de décembre 1982. Là, on est à la au milieu de l'année 1985, oui. C'est-à-dire qu'elle le harcèle, elle le persécute en permanence, alors que la liaison est terminée.
C'est ça.
Elle considère donc, dès ce moment-là, que Bernard Etier, c'est sa propriété.
C'est ça, et lui, il lui appartient, c'est sa chose et tout, et il n'a pas le droit d'aller voir ailleurs. Elle est furieuse quand il a des maîtresses, etc.
Les psychiatres appelleraient ça une chosification. Maintenant, on n'utilisait pas encore ces termes pompeux à l'époque.
Etier, c'est un homme à femme, il a des maîtresses, donc elle ne supporte pas cette situation. Alors j'ai envie de vous dire encore une question, Gilbert-il, toujours se méfier de ses voisins, presque, parce que là, les Hagues, eux, ils vont raconter beaucoup de choses dans cet appartement, ce qu'ils ont entendu la nuit, cette lumière allumée.
Mais les Hagues, on était un petit peu méfiants parce que c'était un couple âgé de plus de 70 ans et je m'aperçois à mon grand effroi que j'ai largement leur âge.
Voilà, donc vous méfiez pas de vous-même.
J'espère que je serai un peu plus cru que les époux Hagues. Mais il n'y a pas seulement ceux-là, il y a ceux de la rue Sainte-Barbe à Maxéville où un type qui bricole son jardin entend Simone Weber qui est là depuis 5h30 le matin alors qu'il pleut et dit « Il me le payera, il me le payera ». Le même qu'il avait déjà vu entre midi et 14h la veille, en train d'attendre Bernard Etier. Et un autre voisin encore, M. L, va l'entendre dire Bernard Etier à l'arrivée, au moment où il se rend compte de la présence de Simone Weber, donc il est à peu près 11h et quelques du matin, il dit « Qu'est-ce que tu fais encore ici ?»
Bah oui.
Et elle lui répond « Je te tuerai, je te tuerai, je te tuerai ».
Donc il y a une vraie détermination, c'est le moins qu'on puisse dire. L'ex-maîtresse du disparu va être arrêtée et entraîner tout le monde dans son labyrinthe. Vendredi 8 novembre 1985, Simone Weber est interpellée par les policiers de Nancy. Sa sœur Madeleine, qui habite Cannes, est également placée en garde à vue. Lors de l'enquête, d'étranges conversations entre les deux femmes ont été enregistrées. Simone y évoque les déboires scolaires d'une petite Bernadette qu'il faut changer d'établissement. Bernadette est en fait le nom de code donné à la Renault 9 du disparu Bernard Etier, véhicule entreposé dans un box à Cannes. En dépit des indices et des charges, Simone Weber, regard bleu acier, voix mesurée, ne bronche pas. Elle a réponse à tout. Oui, elle attendait son ex-amant à 5h du matin le 22 juin, mais pas avec un fusil. J'avais besoin de ses services à propos d'un lavabo bouché, je voulais être sûr de le rencontrer, dit-elle. À ces deux adresses de Nancy, les enquêteurs ont mis la main sur deux carabines 22 longs rifles, du sang humain est détecté. Dans la voiture de Simone Weber, on a encore retrouvé une meuleuse tronçonneuse électrique à disque, du matériel professionnel, 6000 tours minute, matériel qui peut découper la pierre. La tronçonneuse avait été louée au magasin de bricolage Outika. Elle a été parfaitement nettoyée, mais après démontage, les experts ont relevé dans le mécanisme des résidus de chair humaine. Dimanche 10 novembre, le juge de Nancy, Gilbert-il, inculpe Simone et Madeleine Weber. Cette dernière sera mise hors de cause quelques semaines plus tard. Simone Weber se lamente et nie toute implication dans la mort de Bernard Etier. Mais les indices et les preuves s'accumulent. Une douille de 22 longs rifles a été retrouvée dans l'appartement de l'avenue de Strasbourg. L'ex-amant a probablement été tué d'une balle dans la tête, une tête introuvable, puis a été découpé avec la tronçonneuse électrique. Nicole, une sœur de Simone Weber, dit l'avoir croisée lors d'un enterrement quelques semaines après la disparition de Bernard Etier. Elle a noté son attitude bizarre. Elle se retournait tout le temps et se comportait comme si elle était traquée ou surveillée, dit-elle. Le juge joint au dossier des mots manuscrits dans lesquels Simone parle de son amour chaotique pour Bernard Etier. Leur liaison a commencé en novembre 81 et s'est achevée fin 82. À ce moment-là, elle note, désabusée, « Mon cœur devra-t-il donc toujours être en morceaux ? Dieu ne peut exister, mon âme est prête à vivre le pire. » Auparavant, elle a écrit en parlant de Bernard, « Comment est-il possible qu'un être soit capable de tant d'inconscience, de méchanceté et de mépris des choses les plus sacrées et les plus nobles ? Les autres maîtresses de son amant sont qualifiées de résidus, de déchets de la société, de pochardes. » Début 85, lettre à sa sœur, « Ce soir, je vais faire payer à l'autre ce qu'il m'a fait. » Il apparaît que Simone n'a jamais pardonné à Bernard d'avoir des maîtresses et d'avoir rompu. Elle le suivait, vérifiait le compteur de sa voiture pour savoir combien de kilomètres il avait parcouru. Le soir de sa disparition, il devait retrouver Monique Nuss, sa dernière compagne. Simone Weber avait demandé à un cousin d'appeler Monique pour lui dire que Bernard ne viendrait pas. Il avait finalement décidé de passer le week-end à la campagne, dans les Vosges. Simone Weber, qui nie méthodiquement les accusations, mais qui est inculpée pour la mort de Bernard Etier, trop d'indices qui s'accumulent dans le dossier. Les enquêteurs et le juge ont le sentiment de tenir celle qui a fait disparaître par rancœur cet amant qui lui a faussé compagnie. Avec nous, dans cette heure du crime, Gilbert Thiel, juge d'instruction dans cette affaire Simone Weber, et puis auteur de plusieurs ouvrages sur la justice. Et votre dernier livre, c'est Tueur en série Made in France, qui est publié aux éditions Robert Laffont. Alors, évidemment, toute cette heure, elle est consacrée à Simone Weber et à vous, parce que vous fermez, désolé de vous dire ça, mais des années après, encore un couple indissociable. Et alors, il y a cette...
Vous me faites peur.
Oui, mais c'est le but aussi. Et on va continuer à se faire peur, parce qu'il y a un outil, il y a un objet emblématique dans cette histoire, moi qui fait presque toute l'histoire, c'est cette fameuse tronçonneuse. Et cette découverte, elle change tout dans cette enquête.
Oui, c'est une disqueuse à béton, hein, c'est pas une tronçonneuse à chaîne, ça c'est pour les films d'horreur. C'est une disqueuse à béton, vous l'avez dit, qui a été louée par Simone Weber la veille de la disparition de Bernard Etier. On sait que le jour, le soir, ou le lendemain de la disparition de Bernard Etier, elle a amené cet outil chez son cousin Roger Lapierre, celui qui donne les coups de téléphone fantaisistes à la maîtresse, aux collègues de travail et
sur demande de Simone Weber.
Toujours bien sur sûr. Demande de Simone Weber. Donc, elle lui a demandé d'enlever le disque parce qu'elle n'y arrivait pas. Et puis, cet appareil, vous l'avez dit aussi, l'expertise le démontrera, a été entièrement démonté, il avait un grand dos, les fils sont détorsadés, on va retrouver une substance ocre, une substance humaine, que les avocats prétendront être sans doute dû à une blessure que l'ouvrière moldave ou croate, je ne sais plus, au moment de la fabrication. Et d'ailleurs, la police, quand elle découvre le véhicule de Simone Weber à Nancy, voit cet appareil et ne le saisissent pas. Et quand ils viennent m'en parler au moment du déferrement, mais je dis, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je dis, bon, vous allez déjà le saisir. Ça va être la première chose. Alors effectivement, c'est une affaire qui au départ est tout à fait banale. Il arrive malheureusement que des femmes tuent leur amant ou leur mari, et réciproquement, on ne le sait que trop, mais c'est le mode de disparition présumé du corps, avec ce que vont dire les époux Hagues qui la voient descendre des sacs poubelles, avec les voisins du dessous qui entendent un bruit sourd et puis après comme un aspirateur cassé qui ne bouge pas, tout ça on finit par faire le lien.
Le puzzle se met en place, effectivement tout rentre dans l'ordre et vous avez bien fait d'avoir ce réflexe de faire saisir cette tronçonneuse disqueuse qui est une des armes du crime.
Et surtout qu'elle l'a déclarée volée après elle en a remboursé le coup, alors on sait qu'elle était très près de ses sous quand même.
Donc effectivement tout ça cadre. Alors Gilbert Thiel, c'est important. Là, vous êtes, vous la voyez, cette femme. Elle est face à vous. Vous l'entendez, vous la questionnez. Quel est votre sentiment? Comment vous la regardez, cette femme?
Je la vois pour la première fois alors qu'elle est en garde à vue depuis une trentaine d'heures. Donc, je vais classiquement contrôler ce qu'est sa garde à vue. Parce que la police me disait, il faut aller, c'est une vieille femme, ça va rapidement se résoudre, cette affaire. Et j'ai toujours dit, tant qu'on n'aura pas retrouvé la voiture qu'on va retrouver au mois de novembre dans un garage à Cannes, louée sous une fausse identité, le véhicule de Bernard Etier, j'ai dit, on n'interviendra pas. Quand on entend le fameux coup de téléphone du 3 novembre où Simone Weber demande à sa sœur Madeleine, qui se trouve à Cannes, de brûler le passeport et le chéquier de Bernard Etier, là on intervient. Et surtout qu'après avoir fait suivre Madeleine Weber, on l'a vu aller dans une agence immobilière payer le loyer. Donc, à ce moment-là, je fais interpeller Simone Weber à Nancy et sa sœur Madeleine à Cannes, et le temps que Madeleine arrive avec les formalités du mandat d'amener, ça va mettre 3 jours de plus, mais le 10 novembre, je l'ai déjà vu la veille pour une prolongation, ou en tout cas pour un contrôle de garde à vue. Et je m'aperçois tout de suite, et les enquêteurs ne me disent pas le contraire, qu'elle est particulièrement coriace. Et j'avais dit, on ne va pas se précipiter. Donc, au bout de 30 heures de garde à vue, elle dit toujours qu'elle n'a plus vu le véhicule de Bernard Etier depuis qu'elle a changé de route à hauteur de la poste de Maxéville le 22 juin. Alors que c'est elle qui s'est emparée du véhicule de Bernard Etier, qui l'a faussement immatriculé, qui l'a mis sur différents parkings de Nancy avant de l'amener le 17 juillet à Cannes.
Gilbertine, vous vous dites quoi en la voyant là? On vous a dit, les policiers vous ont dit attention, elle est coriace, etc. On croyait que ça serait une partie de plaisir, mais pas du tout.
Moi, je leur avais dit que ça risquait de ne pas être une partie de plaisir.
Moi, je voudrais avoir votre regard, et quand vous la voyez, cette femme...
Mon regard n'était pas bleuté comme vous avez décrit le sien, mais je me suis aperçu rapidement qu'on allait avoir affaire à forte partie. Parce qu'on avait la voiture, c'était déjà une chose, c'était le minimum vital, mais après, qu'est-ce qui s'était passé? Il n'y avait pas eu de témoin direct, et on a pourtant fait, tout de suite après, j'ai refait les perquisitions derrière la police, mais on savait que la partie allait être difficile, simplement on n'imaginait pas qu'elle serait aussi longue, 4 ans et demi.
Investigation loin d'être terminée, puisqu'une possible seconde victime va apparaître.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Il n'y a aucune preuve. C'est un dossier qui est bâti sur des témoignages qu'on a sélectionnés parce qu'ils sont tous plus ou moins contradictoires les uns par rapport aux autres. Et à partir de ce témoignage délirant, on va échafauder toute l'histoire de Simone Weber. Quand on veut transformer quelqu'un en coupable, on arrive à le faire.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, le cas Simone Weber, expliqué par son juge Gilbert Thiel. En novembre 1985, elle a été inculpée pour le meurtre de son ex-amant. Elle nie, au cours des investigations, une autre mort étrange apparaît dans le sillage de la quinquagénaire. En remontant le curriculum vitae de Simone Weber, le juge Thiel note qu'en 1980, Simone Weber, alors âgée de 49 ans, avait épousé à la mairie de Strasbourg le dénommé Marcel Fixard, 79 ans. C'était un bel homme, il avait de grandes qualités de cœur. Je ne cherchais pas un homme à mettre dans mon lit, dira-t-elle. L'homme est brutalement décédé 14 jours après le mariage, un infarctus. Simone a alors hérité de ses biens, notamment la maison de Rosières aux Salines. L'enquête montre que diverses signatures du défunt ont été contrefaites dans les documents officiels, ceux de l'héritage, mais aussi ceux du mariage. Un scénario incroyable est mis au jour. Marcel Fixard n'était pas l'homme qui s'est présenté au bras de Simone devant Monsieur le maire. Il s'agissait tout simplement d'un comédien alsacien à la retraite, Georges Essling, embauché pour l'occasion par Simone. Impossible d'interroger ce faux marié. Il est décédé 3 mois après la cérémonie. Le juge estime qu'au mieux, Simone Weber a organisé ce mariage bidon pour capter à son insu l'héritage de Fixard. Au pire, elle l'a tué. Elle aurait pu l'empoisonner avec l'un de ses produits retrouvés dans sa pharmacie, antalgique, somnifère, mais aussi digitaline, un stimulant cardiaque. Elle en avait acheté 2 boîtes avant la mort de Marcel Fixard. Le corps du défunt est exhumé, mais il ne recèle aucune trace de digitaline. Pendant 3 ans, les enquêteurs vont continuer à explorer les méandres, les recoins de la vie de Simone Weber. On s'interroge notamment sur la découverte chez elle de 37 tampons dérobés dans des mairies, des cabinets médicaux, des pharmacies. Le dossier compte 18 000 pages de procès-verbaux, une soixantaine d'expertises. Simone Weber reste stoïque, elle se dit innocente à 23 reprises. Elle va demander à être remise en liberté provisoire. À 23 reprises, une demande de mise en liberté. J'ajoute à cela 15 pourvois en cassation, 17 appels, etc. etc. On ne compte plus. Gilbert-Thil, vous êtes avec nous dans cette heure du crime. Évidemment, vous, c'est un dossier que vous connaissez parfaitement. Vous avez passé des mois et même des années avec Simone Weber. Vous tombez des nues en découvrant ce vrai faux mariage à la mairie de Strasbourg avec Marcel Fixard. Parce que là, on est dans une pièce de théâtre.
Pendant qu'elle était en garde à vue, il a fallu faire 4 perquisitions. Donc la police qui est à Cannes fait chez Madeleine Weber, mais sur Nancy, il y a 3 sites. Le 158 avenue de Strasbourg, au lieu présumé du crime, qui est l'ancien appartement de Madeleine Weber quand elle habitait encore à Nancy. La rue de Kronstadt, qui est le véritable domicile de Simone Weber à Nancy. Et la maison du fameux Marcel Fixard, dont elle a hérité à Rosières-aux-Salines.
Un petit village,
donc
dans les
pas très loin de Dombasle-sur-Meurthe. Alors, au fur et à mesure des perquisitions que je vais refaire à 2 reprises, une fois au mois de décembre 85, donc dans les jours qui suivent son arrestation, et une autre fois au mois de janvier 1986, on va faire des découvertes. Elle gardait tout, cette femme-là. On a même retrouvé des bâtonnets de dynamite. À l'époque, je fumais beaucoup pendant les perquisitions et j'ai demandé à un moment aux flics, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là qui se trouvaient sous un lit de journal dans une cocotte minutes où se trouvaient les timbres humides que vous avez évoqués, c'était de la dynamite. Les 2 armes qui avaient été retrouvées chez elle étaient munies de silencieux. Et puis surtout, il y avait des documents, des ordonnances volées, manifestement, chez des médecins, Alsace, des faux divers. Et on va commencer par trouver une fausse dispense de publication des bans où Simone Weber demande au procureur de la République de Paris, de pouvoir se marier sans publication des bans à Strasbourg, où elle n'habite pas, où Marcel Fixard n'a jamais habité. Et là, quand on regarde la date de naissance, c'est 30 octobre 1940. 15. Alors que tous ceux qui ont un peu de culture générale savent très bien qu'elle est née en 1930. Donc, une femme qui cherche à se vieillir de 15 ans, en général, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Enfin, vous demanderez des explications complémentaires à Sandrine Rousseau. Moi, je ne suis pas très spécialiste dans ces choses-là. Donc, voilà. Elle conserve des faux. Et les brouillons des faux.
Gilbert-Thil. Qu'est-ce que vous la voyez, cette femme, sans arrêt, vous allez la voir et la revoir.
J'ai vu 77 fois.
Exactement.
Vous appelez sans arrêt, voilà.
77 auditions de Simone Weber. Quand vous lui posez la question, il y a ce faux mariage, etc.
Elle conteste. On va retrouver le témoin du mariage qu'elle a été chercher en Alsace, une femme qu'elle connaissait quand elle avait travaillé là-bas, qui ne reconnaît pas du tout Marcel Fuchsard. On lui montre les signatures d'analphabète qui figure au bas de son acte de mariage. On va démontrer aussi par l'audition d'un notaire et de sa claire de notaire, ça ne s'invente pas, on est en Lorraine, Mademoiselle Mirabel, qui va dire, mais le type qui est venu signer l'acte d'acquisition de la maison de Marcel Fixard avec paiement hors la vue du notaire, c'est pas Monsieur Fixard, parce que moi je le connais bien. Donc on a ce faux-là, là on est en janvier 80, on a le faux acte de mariage et on a des faux testaments qui sont de véritables chefs-d'œuvre de falsification à partir de véritables écritures de Marcel Fixard. Donc je fais exhumer, là, je termine juste sur ce point,
allez-y.
Je fais exhumer Marcel Fixard. Madame Rudler, l'experte psychologue, me dit, mais il y a des quantités infinitésimales de digitaline, mais c'est trop petit pour que je puisse affirmer qu'il en a été introduit des quantités importantes dans le corps, mais me dit-elle, la digitaline se décompose sous l'effet des phénols de décomposition, sous l'effet de la putréfaction, en eau de ruissellement et en glucose, c'est-à-dire en sucre, et tout ça est balayé. On ne retrouve pas. Par contre, ce qu'on va retrouver, ce sont des ordonnances falsifiées qui nous ont permis d'acheter, 15 jours avant le décès de Marcel Fixard, de la digitaline dans des pharmacies de Nancy, avec une Simone Weber qui me dit « Personne n'en a jamais pris chez moi, je n'en ai pas pris ».
Bernard Etier n'en prenait pas, et voilà.
Simone Weber nie, mais c'est pour les morts de l'ex-amant et du faux mari qu'elle va finalement être jugée. Jeudi 17 janvier 1991, 5 ans et 2 mois après son arrestation pour le meurtre de Bernard Etier, Simone Weber, 60 ans, apparaît devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle à Nancy. Pimpante, une permanente blonde, le regard agile, elle sourit aux photographes décontractés. Elle se veut aux commandes de son procès, elle demande à ses avocats de récuser tel ou tel juré. Quand les témoins s'expriment, elle note scrupuleusement leurs propos, ne laisse rien passer. Son premier mari vient dire qu'elle voulait le faire enfermée dans un asile. Il la décrit comme une mauvaise femme. Elle l'accuse de toutes les perversions et laisse l'ex-époux interloqué. Elle se plaint du portrait qui est fait d'elle. D'une voix presque plaintive de petite fille, elle dit « J'entends tellement de choses abominables, de choses déformées ». Simone Weber, interrogée sur la mort de Bernard Etier, conteste que le tronc repêché dans la Marne soit le sien. « Il fallait trouver un corps à Bernard pour me condamner à la prison à vie, pire que la peine de mort. » Elle ajoute « Avoir de la peine pour Patricia, la fille du défunt, puis avance d'une voix lasse. On voudrait faire croire que j'ai délibérément coupé en morceaux un être que j'aimais bien, c'est faux. Je n'ai jamais assassiné personne, je ne sais pas pourquoi je suis ici. » La cour ne va pas s'attarder sur l'empoisonnement possible de Marcel Fixard, pas de preuves. Simone Weber est acquittée pour cette affaire. Pour Bernard Etier, elle écope de 20 ans de prison pour meurtre commis sans préméditation. Elle n'a pas assisté au verdict, elle s'est évanouie à la fin des débats après avoir prononcé ces mots. « Je ne suis pas le monstre que vous avez bâti !» Gilbert Thiel est avec nous dans l'heure du crime, juge d'instruction dans ce dossier, sans doute l'homme qui connaît le mieux au monde, Simone Weber. « Je ne suis pas un monstre », c'est le message qu'elle veut faire passer à ce procès, en permanence.
Pour ma part, je n'ai jamais prétendu qu'il s'agissait d'un monstre.
C'est vrai,
ce n'est pas moi qui l'ai appelé la diabolique de Nancy. Je crois qu'il faut plutôt se tourner du côté des médias pour ce qui
c'est
concerne
pas faux,
cela.
C'est pas faux, c'est
par contre, je prends la responsabilité, c'est moi qui l'ai inculpé, c'est moi qui l'ai écroué, c'est moi qui ai résisté, en quelque sorte, aux 23 ou 27 demandes de mise en liberté. Ma mémoire défaille un petit peu. C'est moi qui l'ai renvoyé devant la cour d'assises, et ce sont les jurés de la Meurthe-et-Moselle qui composaient la cour d'assises, qui l'ont condamné, et qui ont donc, parce que c'est comme ça que fonctionne la justice, qui ont donc eu un avis différent que celui de Simone Weber sur sa propre innocence. Mais, ou virginité, alors, selon le choix qu'elle voudra faire.
Je ne suis pas un monstre. Est-ce que lors de cette très longue période d'instruction, il y a plusieurs années qui sont écoulées, est-ce qu'elle a cherché à vous apitoyer? Est-ce qu'elle a multiplié les visages?
Ouais, elle a essayé beaucoup de choses. Des jours où elle était très très aimable. J'ai l'habitude de dire qu'on était, puisque ça a duré près de 5 ans, cette instruction, comme un vieux couple. Alors il faut savoir qu'on n'était pas dans une grande intimité quand même, parce qu'elle avait toujours au moins 4 ou 5 avocats à ses côtés pour les interrogatoires. Au total, elle en a eu 27 qui se sont succédés, et pas des moindres, notamment Maître Vergès, Maître Lemaire, Maître Pelletier, etc. Enfin, le contact n'est pas passé avec tous, mais Maître Garot, en tout cas, elle a été très énergiquement défendue. J'entendais encore ce que disait au début de la reprise de l'émission, la Maître Baird. Ben, c'est tellement facile de dire oui, vous avez construit un monstre, vous avez construit un coupable. C'est quand même un métier où on peut toujours dire tout et éventuellement n'importe quoi en disant que si la décision n'est pas satisfactoire pour l'avocat, ce sont les juges qui se sont trompés ou qui, pire, ne sont pas de bonne composition.
Mais quels sont, Gilbert Thiel, les visages de Simone Weber?
Visages, elle a multiplié un certain nombre d'incidents dans mon cabinet, elle a insulté des témoins, les époux, elle a simulé des malaises, je faisais venir un médecin légiste qui constatait qu'elle était en parfaite santé, elle a fait la grève de l'instruction pendant près d'une année, elle a déposé une requête en suspicion légitime contre moi, qui n'a rien donné non plus. Et puis, de temps en temps, elle était aimable. Lorsque je l'amenais à sa demande sur la tombe de ses enfants, puisqu'elle avait eu le malheur de perdre deux enfants âgée de moins de 20 ans, Catherine qui avait 16 ans, et plus tard un de ses fils qui n'avait pas tout à fait 20 ans, qui partait au service militaire et qui s'est suicidé. Lorsque je l'amenais là, ben les gardiennes de prison disaient qu'elle leur avait dit je vais avec mon chéri, aujourd'hui je sors, et donc elle passait chez le coiffeur. Alors par moment elle essayait de faire du charme, par moment elle essayait de passer en force. J'ai l'habitude de dire qu'on était un peu comme un vieux couple, des fois on se disputait peut-être pour pas grand chose, et puis d'autres fois ça se passait mieux, mais au fur et à mesure que se déroulait le temps de l'information, plus ça se crispait, à tel point que quand j'ai voulu faire mon interrogatoire récapitulatif qui devait faire 1200 pages, il était très très volumineux, elle a rompu la joute dès le deuxième jour, et puis après je ne l'ai plus revue. Enfin presque, puisque je l'ai revue quand même une fois à Rennes.
La condamnée retrouve sa prison, elle en sortira 8 ans plus tard. Mercredi 17 novembre 1999, Simone Weber, 69 ans, quitte discrètement la prison des femmes de Rennes. Elle avait averti qu'après sa libération, elle prendrait l'avion pour n'importe où, histoire de quitter ce pays pourri. Elle va finalement s'installer à Cannes, près de sa sœur Madeleine, à la mort de celle-ci en 2016. Des policiers vérifieront si ce décès n'était pas dû à un empoisonnement. « Tout cela parce que je m'appelle Simone Weber », dira-t-elle.
C'est même pas imaginable, d'écrire, de voir que les preuves là sous leurs yeux, mais ils mentent. Si vous saviez, tous les gens là, innocents, qui sont en prison, je vais m'avoir un revolver, je me descendrais aussi vite, hein. Parce que si vous saviez comment j'ai été roué de coups, la tête tapée comme un mur, qu'elle disait on te fera crever, la Weber. Les méchancetés que j'ai à longueur de journée. J'étais la Simone Weber, de la fausse Simone Weber.
Et vous avez évidemment reconnu cette voix, c'est évidemment celle de Simone Weber. Et c'était dans l'heure du crime, en août 2021. Et c'est à ce jour la dernière interview de Simone Weber. Gilbert Thill, vous avez été son juge, Simone Weber. Vous êtes l'auteur de divers ouvrages sur la justice. Et votre dernier livre, je le cite à nouveau, « Tueur en série Made in France », qui est publié aux éditions Robert Laffont. Vous avez gardé un contact avec Simone Weber ?
Non, elle m'a écrit pour la dernière fois en 2020, j'étais encore adjoint au maire de Nancy, et elle voulait bénéficier d'une partie de la pension de réversion de son premier mari, celui qui l'avait fait interner avec un faux certificat médical. J'ai donc transmis sa demande au défenseur des droits de Meurthe-et-Moselle, et j'ai répondu à Mme Weber que j'avais transmis sa demande, et le défenseur des droits m'a répondu une semaine après en disant « ouais, elle nous a déjà demandé ça en 2003, elle n'a droit à rien. Donc, la suite dans qu'elle n'avait pas véritablement changé, et qu'effectivement, elle avait une grande suite dans les idées, même les plus frelatées.
Lorsque vous l'interrogez, Simone Weber, pendant toutes ces années, vous la voyez, vous la revoyez, vous nous avez dit tout à l'heure 77 fois, 77 audiences, est-ce que c'est une femme prévisible ? Parce que vous finissez par la connaître, vous dites, oui, elle va essayer de me mentir sur
Et trucs, réciproquement, ou... elle finit par me connaître, donc elle sait ce qui m'agace, et parmi les choses qui m'agacent, elle a très bien compris que quand elle avait comme un instinct, parce que des fois on me demande s'il était intelligente, je disais elle était plus rusée qu'intelligente. Donc quand elle s'apercevait qu'elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dit, qu'elle n'aurait pas dû dire, donc elle continuait de parler, ce qui fait que j'avais dû apprendre à l'époque, et c'est un exercice difficile, à dicter ce qu'elle venait de dire à mon greffier tout en écoutant ce qu'elle continuer à affirmer. Alors, je peux vous dire que vous tenez quand même pas très très longtemps. Parce que si je ne notais pas immédiatement, au mot à mot, ce qu'elle avait dit, ses avocats, ils étaient quand même une nuée autour de moi, venaient dire non, c'est pas exactement ce qu'elle a dit, etc. Donc, c'était quand même des interrogatoires qui duraient 3 à 4 heures. Je peux vous dire que je sortais passablement lessivé. Puis, à d'autres fois, où elle était beaucoup plus aimable, souriante, et puis... quand
ses avocats partaient en fin d'interrogatoire. Là, nous pouvions, et nous ne parlions pas de l'affaire.
Et vous parliez de quoi, alors?
Mais de choses et d'autres. Et alors, après, je lisais bien sûr ce qu'elle disait de moi à sa sœur, lorsqu'elle écrivait à sa sœur Madeleine, qui avait été remise en liberté, qui a quand même été condamnée pour la modification des scènes de crime,
pour la voiture,
des délits connexes pour la voiture. Eh bien, elle écrivait à sa sœur, oh, j'ai vu le poussin aujourd'hui, alors, le poussin c'était moi, elle ne m'appelait pas mon poussin, mais quand elle écrivait, j'ai vu le poussin aujourd'hui avec son affaire des fausses factures, je m'occupais à l'époque d'une affaire importante, affaire politico-financière mettant en cause le maire de Toul, elle disait, je crois qu'il travaille trop, il est crevé, je pense qu'il va bientôt mourir. Comme quoi, elle a pas toujours raison, Madame Weber, puisque je suis encore là. Alors, parfois, une fois, elle m'a appelé Touvier, donc là, elle s'est fait bien sûr expulser de mon cabinet. Donc, ça voulait dire que ça pouvait monter très haut et descendre très bas, selon la manière de laquelle on considère la chose.
Une toute dernière question, Gilbert Thiel. Il y a cette photo, elle revient, on vous l'emmenait, c'est une reconstitution. Elle est prise dans le jardin, elle prend des fruits à un arbre et tout, etc. Cette photo, elle est extraordinaire, parce qu'on se demande si elle n'est pas spectatrice de son propre crime. Simone Weber.
C'était à l'occasion d'une nouvelle perquisition, la fouille du jardin potager de la maison de Rosière Rousseline. On se disait peut-être que la tête a été enterrée quelque part. On ne l'a toujours pas retrouvée à ce jour. Et comme on était au printemps, il y avait des pêches sur son pêcher, elle m'a demandé si elle pouvait en cueillir. Je ne voyais pas de raison de m'y opposer, mais ça a été mal perçu, notamment par des membres de la famille de Bernard Etier, en disant c'est quoi, c'est le Club Med, pas de prison là. Pas tout à fait, quand même. Mais je ne voyais pas pourquoi j'allais lui refuser de consommer 2-3 fruits de ce qui avait été son jardin acquis avec l'immeuble dans les conditions que vous avez évoquées tout à l'heure.
Merci infiniment, Gilbert Thiel, d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Priscille de Gueffier, réalisation Béatrice Bessière.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.